Bonjour. Merci. J'ai toujours su que la mort de ma grand-mère n'était pas une mort ordinaire. Un mystère l'entoure, un grand flou. Des rumeurs baroques et beaucoup de questions. Une seule certitude, sur l'acte de décès, l'heure n'est pas indiquée. On ne sait quand elle est morte, ni comment. J'avais 1 an et demi, l'âge où on ne comprend pas trop les soucis des parents, mais où l'on échappe pas beaucoup au drame des familles. Dans mon univers de fillette curieuse, la fin mystérieuse de ma grand-mère prit bonne place aux côtés de la religion, l'occupation, l'enfantement. Les choses graves que les adultes n'évoquent qu'à mon couvert et jamais en présence des enfants. L'époque était difficile, on n'en était ni à un mort ni à un mystère près. Le soir, pour m'endormir, ma mère me contait les histoires des ogres et l'amour de sa mère. Avec son nez crochu, ses hardes et son balai, la gentille pendue avait tout d'une sorcière et m'invitait à danser sous la lune. On avait retrouvé son corps pendu à un crochet de la cuisine. Son fils était prostré à ses pieds, tout juste sous son cadavre. Il ne disait rien, pas un mot. Tout le monde les avait entendus se disputer. L'affaire parut suspecte et le resta. Aujourd'hui encore, nul ne sait s'il l'a tué. Aujourd'hui, j'ai l'âge exact qu'avait ma grand-mère en mourant. L'âge qui convient pour rouvrir l'enquête, pour tenter de démêler les destins, pour oser affronter la tragédie familiale. Je veux comprendre la mort qu'on ne m'a jamais expliquée, débrouiller l'intrigue que personne n'a pu élucider. Faute d'éléments concrets qui lui donneraient un éclairage nouveau, et comme je veux savoir, c'est dans ma mémoire que je vais puiser. En fouillant dans mes souvenirs, dans mes rêves, je vais me livrer à la seule investigation possible, la reconstitution psychique qui permet de lever le voile sur le secret dont ma mère et moi avons été habités au point de le répéter, découvrir comment ma grand-mère est morte. Pour cela, il me faut fouiller à même ma chair, sortir de l'ombre mes secrets, visiter les recoins de mon histoire, pour y dénicher les détails gênants, les indices, les traces qui jalonnent 50 années, habitées par la mort et visitées par la folie. L'investigation que je vais mener rappelle mes lectures favorites, les intrigues policières, mais elle ne s'intéressera qu'à mon histoire, n'obtiendra d'aveux et de preuves que de mon passé, de mes amours, de mes peurs et de mes haines. J'ai été éducatrice longtemps et puis psychologue. J'ai passé ma vie à m'occuper d'adolescents en difficulté, de familles douloureuses, d'enfants mal aimés, mal aidés. J'ai passé mon temps à travailler à l'éducation surveillée, puis à la protection judiciaire de la jeunesse. Je suis devenue une des spécialistes de la violence. J'ai beaucoup travaillé la violence, j'ai écrit beaucoup de livres sur la violence. Sur la violence et sur l'art de vivre avec la violence, le recyclage de la violence. Et lorsque j'étais encore à la PJJ, j'ai fait une étude et puis une deuxième sur la réparation et publié un livre sur la réparation. Ce qui m'intriguait, c'était, à partir des théories de Melanie Klein et dans le quotidien de la vie des jeunes délinquants, comment on pouvait survivre à la violence qui nous habite, survivre à la destruction dont on rêve, à la destruction qui nous fait rager, survivre à la violence de sa famille, à la violence des cités. Du côté de la victime comme du côté du bourreau, du côté du coupable comme du côté de celui qui subissait les outrages, m'a toujours intrigué l'art de survivre au pire. En tant qu'éducatrice et en tant que psychologue, j'étais bien persuadée que tout le monde répète, qui a bu boira, les enfants maltraités feront des parents maltraitants. Je le croyais, comme tout le monde. Je le croyais parce que tous les jours, dans mon exercice professionnel, je rencontrais des femmes battues qui, à peine sorties des griffes d'un mari violent, se trouvaient un autre mec tout aussi maltraitant. Je voyais ces femmes qui avaient quitté un mari alcoolique et qui en épousaient un autre tout aussi alcoolique jusqu'au troisième, qui ne buvait pas quand elles se mettaient avec lui, et puis ensuite qui se mettaient à boire. Enfin bon, vraiment, la répétition, c'était le quotidien de notre travail. Et j'avais bien dans la tête que ce n'était pas comme ça pour tout le monde. J'avais bien ça dans la tête à cause de mon histoire. Je savais que tout le monde ne répète pas. Et j'avais écrit quelques articles sur les alchimistes. C'était certaines assistantes maternelles que j'avais rencontrées dans le placement familial, qui avaient subi des violences sexuelles, qui avaient subi des maltraitances, qui avaient été abandonnées par leurs parents, et qui non seulement ne répétaient rien, mais au contraire, recueillaient des enfants mal aimés, aidaient des enfants bousculés. Je connaissais des femmes qui avaient été violées et qui non seulement ne répétaient aucune violence, mais au contraire aidaient d'autres femmes violées ou meurtries à survivre. Je connaissais des aides-soignantes qui avaient subi des histoires familiales extrêmement douloureuses et qui, dans le quotidien de l'accompagnement des mourants, apportaient à des gens isolés dans les affres de la mort solitaire une vraie présence avec des vrais soins, des mains aimantes, des mains apaisantes. Jusque